Et nous voilà arrivés dans la toute dernière partie de cette série de Foi dit en passant consacrée à Saint Paul. Nous sommes en compagnie du frère Hervé Ponceau, dominicain au couvent Saint Thomas d'Aquin à Toulouse, bibliste spécialiste de Saint Paul et enseignant à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Alors frère Hervé, l'un des thèmes favoris, on va dire, chez Paul, c'est bien sûr la charité. Saint Paul nous parle de la charité d'une manière assez bouleversante, merveilleuse. Au fond, qu'est-ce que Saint Paul nous apprend de la charité? Qu'est-ce qu'il nous en dit? De quelle manière nous en parle-t-il?
Alors, il en parle dans la première lettre aux Corinthiens. Décidément, on parlera beaucoup de cette première lettre aux Corinthiens, mais c'est une lettre que je conseille à la lecture de beaucoup de gens qui nous écoutent, parce que c'est sûrement l'une des plus abordables et à bien des égards, à certains moments, la plus connue, même si aussi elle est parfois méconnue, comme je l'ai dit à propos des femmes. Donc, dans le chapitre 12 de la première aux Corinthiens, Paul aborde la question de l'unité du corps et il fait suivre ceci de ce fameux passage connu, chapitre 13, l'hymne à la charité que, en général, souvent, les fiancés préfèrent choisir comme... lecture pour leur messe de mariage. Je vous rappelle un peu le commencement, disons, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté de montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, etc. Alors, donc c'est un plaidoyer vibrant et remarquable pour la charité. La charité, c'est un mot grec, et la plupart du temps, les gens en ont entendu parler de ce mot-là, c'est le mot agapé. Ça veut dire aimer. Alors parfois, du coup, on remplace charité par amour. C'est une erreur dans la traduction, on dit qu'il faut garder charité.
Parce oui, le mot charité est de moins en moins employé. Alors
oui, parce que les gens n'aiment pas qu'on puisse dire que Paul ait promu la charité, parce qu'aujourd'hui, faire la charité, c'est à mauvaise presse.
C'est une connotation de pitié.
Voilà, absolument. Or, ce n'est pas du tout ça, la charité. La charité, le mot qui est derrière, donc c'est le mot agapé, je le disais tout à l'heure, c'est l'amour qui existe entre le Père et le Fils. L'amour qui se vit, autrement dit, au cœur même de la Trinité chrétienne. Alors, vous imaginez que c'est le summum de l'amour. Bon. Et ça n'a rien à voir avec la pitié. Il n'y a aucune pitié entre le Père et le Fils. Il n'y a rien du tout de cet ordre-là. Il y a un amour réciproque, égal. Eh bien, c'est de cette vie même de la Trinité que Paul invite les chrétiens à vivre.
En somme, Paul nous dit que nous aussi, on a le droit à ce summum.
Absolument. Absolument. Alors, c'est évidemment pas facile. C'est pas facile, puisque c'est l'amour même dont s'aiment le Père et le Fils. Donc, c'est pas facile à vivre sur notre terre et dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Et bien, cela, évidemment, se reflète, par exemple, dans cette première lettre aux Corinthiens dont j'ai parlé. La difficulté, par exemple, dans un grand thème dans la première lettre aux Corinthiens, c'est le thème de l'unité. Vous savez que l'unité, c'est une dimension extrêmement importante de la vie chrétienne et Dieu sait que les gens à l'extérieur les reprochent facilement aux chrétiens d'être justement des églises qui sont désunies. Donc il y a tout le thème de l'unité des chrétiens. Alors Paul est un farouche défenseur de cette unité communautaire dans la première lettre aux Corinthiens, ça revient à plusieurs reprises. Il faut vivre profondément cette unité. Comment se vit cette unité? On sait aussi qu'elle est difficile à vivre. Et bien elle va se vivre justement en accueillant en soi cette charité, en accueillant cet amour, qui est l'amour même qui se vit au cœur de la Trinité, en l'accueillant évidemment, en le mettant en œuvre. Donc c'est pour ça que dans cette lettre qui est, encore une fois je le dis, largement consacrée à cette question de l'unité, bon il y a des divisions, Paul parle même il emploie le mot schisme par moment dans cette première lettre aux Corinthiens, donc il y a des divisions comme on peut en connaître dans toute communauté, dans toute, quelle qu'elle soit, hein, communauté conjugale, communauté familiale, communauté ecclésiale, communauté politique, etc. Et il y a des divisions, ça c'est normal. Bon, Paul ne s'étonne pas qu'il y ait divisions. Il va s'étonner éventuellement que l'on ne travaille pas à surmonter ces divisions. Or, comment surmonter ces divisions? On le voit bien combien c'est difficile aujourd'hui, où qu'on soit et qui qu'on soit.
Est-ce que Paul nous donne des conseils pour y arriver?
Ah ben, le conseil qu'il nous donne, c'est de mettre en œuvre l'agapé, l'amour en question. Alors, et il le met, vous voyez, au-dessus de tout, de telle sorte qu'il nous dit, il faut accepter de tout donner pour la charité. Et de, donc, ça veut dire, d'une certaine manière, de renoncer à tout pour vivre la charité.
Ça veut c'est dire essentiel. Se donner soi-même.
Absolument, se donner soi-même. Donc, elle est, quand il parle ensuite de la charité, il dit, elle est longanime, serviable, voilà, serviable. Elle n'est pas envieuse. Et bien voilà, ce sont des, remarquez bien que la manière dont il en parle, ce sont des aspects très pratiques. Ça veut dire, en gros, si je, pour vivre la charité, soyez servable, ne soyez pas envieux. Voilà, si je traduis aujourd'hui. Mais lui, il présente les choses comme ça. La charité est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche pas son intérêt. Voilà. Ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Eh bien, vous avez là, exactement, vous me demandez, comment faut-il faire? Eh bien, Paul vous dit, si vous voulez vivre la charité, vivez cela.
Et Paul ne s'adresse pas à des chrétiens qui soient particulièrement en bonne voie.
Ah non, la communauté chrétienne de Corinthe, justement, elle était bousculée par des tas de divisions. C'était pas une communauté du tout exemplaire. Mais aucune communauté chrétienne ne peut se prétendre exemplaire. Vous savez que le chrétien n'est pas celui qui est parfait, c'est celui qui veut tendre vers la perfection. Alors, Paul nous dit, le moyen de cette perfection, hein, encore une fois, qui restera toujours un peu au-delà de nos possibilités, mais vers lequel on peut tendre quand même, c'est la charité.
Paul dit aussi de la charité que de la foi, l'espérance, et que ça, c'est la plus grande. Mais pourtant, est-ce qu'on peut vivre de charité si on ne vit pas de foi et d'espérance?
Ah, mais si on vit de charité, on vit automatiquement de foi et d'espérance. Bon, voilà, c'est un peu ça que je répondrai. Mais c'est-à-dire que, non, mais en plus, Paul considère, là, il voit les choses un peu dans une espèce de dimension eschatologique, un peu la dimension de la fin des temps. De fait, dans la fin des temps, imaginez que nous soyons au ciel. Ce qu'à Dieu ne plaise, j'espère que nous arrivons tous, eh bien la foi, vous avez le Christ avec vous, en face de vous, l'espérance, vous êtes à la fin des temps. Par contre, la charité, d'une certaine manière, ça continuera de se vivre, puisque c'est la vie même du corps du Christ, cette charité. Donc j'allais dire, dans cette fin des temps, encore une fois, telle que je peux la projeter de manière très, très approximative, eh bien de fait, Paul dit, la charité ne passera pas, parce que c'est la dimension unitive de ce corps du Christ, donc qui restera quoi qu'il en soit, et que nous essayons de vivre, et que nous essayons nous devons essayer de propager sur cette terre.
Nous avons parlé, frère Hervé, au cours de la semaine, des communautés auxquelles Paul s'adressait. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que c'est par cette correspondance ou par cette relation avec les communautés que Paul a eu cet élan de charité?
Ça s'est exprimé là, je l'avais dit d'emblée à un moment. Lorsque Paul s'adresse aux communautés, il manifeste déjà sa propre charité, qu'il a reçue lui-même du Christ. Évidemment, la charité n'est jamais quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on reçoit du Christ. Et il essaie de la communiquer. Et alors évidemment, par exemple, dans cette première lettre aux Corinthiens si magnifique, on voit qu'à tout instant, il essaie de diffuser cette charité qu'il a reçue lui-même.
Il n'aurait pas pu la vivre seul, de toute façon, la charité.
Je ne crois pas qu'il l'ait vécu seul. Ça ne suffit jamais seul, la charité. Effectivement, c'est une dimension fondamentale de la communauté du corps du Christ.
Alors, quant à l'espérance, frère Hervé Ponceau, dans son encyclique toute récente, Spe Salvi, Benoît XVI fait beaucoup référence à saint Paul en parlant de l'espérance.
Alors, cela dit, d'abord, première chose, évidemment, il faut encourager tout le monde à lire cette magnifique encyclique. Et donc, je l'ai fait moi-même récemment et j'en étais ressorti assez bouleversé. Parce qu'en plus, c'est pas si difficile que ça et notre pape s'exprime assez bien là-dessus. Alors, il prend appui sur saint Paul, parce que vous savez, quand même, quand on est théologien, le grand théologien qui est un peu le maître, c'est toujours saint Paul. Donc, il nous parle de cette dimension d'espérance. Il nous dit d'ailleurs que, vous savez, le problème de notre vie chrétienne aujourd'hui et de la vie du monde, c'est pas un défaut de foi, il nous dit, c'est un défaut d'espérance. C'est assez frappant dans cette encyclique. Et de fait, mais il nous dit aussi à un moment, il nous dit, selon une phrase d'ailleurs qui est pratiquement tirée de saint Paul, notre espérance c'est le Christ. Donc c'est vrai que c'est cette dimension qui doit continuer de nous animer sur cette terre. Nous sommes là pour témoigner du Christ et nous sommes là tournés, tout orientés vers le Christ. Le Christ est notre fin. Nous sommes tournés vers lui et nous devons sans cesse rendre témoignage au Christ. Alors, pour le moment, effectivement, dans notre condition errante de pèlerinage sur cette terre, eh bien, le Christ, il est notre espérance. Donc, il est clair que c'est en relation avec la foi, c'est-à-dire qu'on ne peut vivre cette espérance que dans la mesure où, effectivement, nous avons aussi cette fois que le Christ est celui qui nous sauve. Si mon espérance, comme je dis ça parce que Benoît XVI en parle, c'est l'espérance du progrès, bon, ben, j'attends que le progrès me sauve. Et donc, il faut que j'ai le foi dans le progrès, de quelque manière. La dimension...
C'est un peu une désillusion.
C'est un peu une désillusion. Benoît XVI le dit fort bien, il l'explique. Mais la vie chrétienne, nous, c'est notre espérance, c'est le Christ. C'est lié à notre foi. Et ça doit se traduire dans l'exercice de la charité.
Frère Hervé Ponceau, merci beaucoup d'avoir été avec nous toute cette semaine dans Foi dit en passant. Je rappelle que vous êtes dominicain au couvent Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse. Vous êtes également bibliste, spécialiste de Saint-Paul et vous enseignez à la faculté de théologie au sein de l'Institut catholique de Toulouse. La semaine prochaine, nous parlerons justement de cette encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi, et nous serons pour cela en compagnie du père Michel Dagra.